C'est un plaisir de se tenir devant Dieu, au milieu de vous, comme nous l'avons fait pour confesser son nom, pour le louer. Et pour moi, c'est un honneur d'ouvrir la Bible parmi vous. Que Dieu me donne de servir sa parole correctement et comme il a été prié, que dans chaque cœur, elle agisse. Donc je propose de lire dans l'Épître aux Hébreux, à commencer par les deux derniers versets d'Hébreux 10, donc Hébreux 10, verset 38, jusqu'à 11, verset 6. Oui, jusqu'à 11, verset 6. Donc 10, 38, et... Je prends au milieu d'une phrase, mais on ne peut pas tout lire. Donc c'est l'Éternel qui parle. Et mon juste vivra par la foi. Donc dans Habacuc, on lit le juste. Et là, Dieu fait dire, parce que c'est Dieu qui fait écrire les Écritures. Il y a les auteurs humains, mais il y a le surauteur. Dieu dit, en parlant des justes, il dit mon juste. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il déserte la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient ou qui ont foi pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, littéralement, il reçut le témoignage qu'il était juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elles, au pluriel, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi que Hénoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, littéralement, qu'il est. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Évidemment, je ne pourrais pas m'arrêter sur tout ce qui est contenu dans ce que nous avons lu. Un certain nombre de choses depuis 10, 38 jusqu'au verset 5 et après nous arrêter un petit peu plus sur le verset 6, c'est-à-dire « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire », etc. Donc, 10, 38, mon juste vivra par la foi, mais s'il déserte la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. A contrario, cette phrase nous dit que Dieu prend plaisir en celui qui croit. Et selon comment on a été éduqué, ça peut être difficile pour l'un, plus facile pour l'autre, de croire que Dieu prend plaisir en soi. Moi, mon éducation et toute mon histoire fait que ça m'est très difficile de croire que Dieu prend plaisir en moi. Après, j'ai observé chez des chrétiens, des vrais chrétiens, une certaine légèreté. Ils ont l'impression que Dieu est toujours content d'eux, quoi qu'ils fassent. Et du coup, ils se permettent des choses sans même se rendre compte que, oulala, peut-être là, Dieu, il est en train de dire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà, donc ça, c'est une remarque. Et maintenant, tout de suite, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Alors, la chose la plus importante à réfléchir au sujet de cette phrase, tout de suite, la première chose qu'il faut réfléchir, c'est de se dire, attention, ça, c'est écrit dans la Bible. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si c'était écrit dans un livre pour préparer un sportif, le mental du sportif, à ce moment-là, la phrase signifierait « Sache ce que tu espères, décide, détermine ce que tu espères, tu veux être champion de France dans ta discipline, alors, eh bien, mon petit gars, on y croit, on y croit, on y croit. » Mais la même phrase dans la Bible ne peut pas signifier ça. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, ce n'est pas moi qui détermine ce que j'espère, c'est Dieu. Et dans la Bible, le mot espérance ne recouvre que, quand il est au sens fort, hein, il y a de rares emplois où la personne qui le dit le dit dans un sens un peu comme dans les sociétés humaines. Entre humains, quand on dit « j'espère que », ça implique déjà avant tout que j'en suis pas sûr. Évidemment. Donc Paul dit « j'espère aller en Espagne ». Bon, et même encore maintenant, on ne sait pas s'il y est allé ou pas. Donc, mais hormis ces emplois-là, quand la Bible emploie l'espérer, on ne peut espérer que les choses que Dieu a promises. Je ne sais pas si vous vous êtes dit, alors ça a été mon cas pendant des décennies où j'avais l'impression que la foi et l'espérance, ça faisait double emploi. Que ça faisait, c'était, comment je... ça revient au même, voilà. Et en fait, non. L'espérance, c'est d'abord un contenu. La foi aussi, mais... ici, on a bien... C'est l'assurance des choses qu'on espère, des biens espérés, des bonnes choses que Dieu... Voilà. Donc, et qui détermine ce qui est bien ? Et qui prescrit à ses rachetés ce qu'ils doivent espérer ? Dieu. J'espère en l'Éternel, j'espère en ta bonté, je m'attends à ta parole, j'espère en Christ, Christ est notre espérance, l'espérance de la résurrection, de la vie éternelle. Donc, si je détermine comme un non-croyant, si je fais comme un non-croyant et que je détermine ce que je veux espérer, je vais espérer que, je ne sais pas moi, zéro maladie sur terre. On va dire, mais je vais émouvoir des gens avec ça. Ils vont dire, mais tu as une magnifique espérance. C'est impressionnant, une grande vision comme ça. Zéro maladie sur terre. Est-ce que Dieu a promis ça dans sa parole ? Non. Alors si Dieu ne l'a pas promis, la foi que j'ai dans cette fausse espérance n'est pas de la foi. C'est de l'auto-persuasion. C'est... d'accord ? Voilà. Et c'est pour ça qu'on lit au verset 2, c'est à cause d'elle, à cause de la foi, que les anciens, donc ceux des générations anciennes, ont reçu un bon témoignage. De qui ? Tout ce que nous avons lu nous aide à comprendre. Ils ont reçu un bon témoignage de Dieu. Dieu a rendu témoignage à leur foi. Ce qui revient à dire que est foi ce que Dieu appelle foi. Et la Bible est claire, c'est lui qui la donne. Et Dieu est l'auteur de la foi, et Jésus est l'auteur de la foi. C'est lui qui la donne. Et non seulement il la... Non, si vous voulez, c'est ce qui, est un, qui pousse à la reconnaissance. Dieu donne la foi, et quand l'individu la reçoit, la valorise, enfin, voilà, goûte, saisit et nourrit, entretient, eh bien, Dieu rend un bon témoignage de cet individu. Alors, c'est lui qui a donné, et encore, c'est lui qui félicite. Alors, dans ce chapitre 11 de Hébreux, il y a cinq fois, non, pas cinq types de foi, hein, cinq fois avec un S à la fin, où on lit qu'il est parlé que Dieu rend un bon témoignage. Et évidemment que cette répétition, donc quatre fois dans ce qu'on a lu, du moins dans le texte littéral, et puis une fois au verset 39 que nous lirons aussi, ou que j'évoquerai plus loin. Et cette répétition, c'est pour me sensibiliser de qui je veux recevoir un bon témoignage. De mon voisin, de mon quartier, même de l'Église. Alors oui. Voilà. Mais de Dieu. De Dieu. Et cette foi-là qui plaît à Dieu, c'est, n'allons pas imaginer que seulement les mesures de foi exceptionnelles, hein, chacun selon la mesure de foi qui lui est départie par Dieu. N'allons pas imaginer que ce sont seulement ces mesures-là qui plaisent à Dieu. La première chose concrète qui est dite, c'est au verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais c'est le béaba du catéchisme, que Dieu est créateur. Eh bien, déjà, ça plaît à Dieu. Si ça, je le reçois et je le crois. Et je le crois pourquoi ? Parce que c'est écrit. Et quand nous étions tout enfants, nous l'avons cru. Pourquoi ? Parce que quelqu'un nous l'a dit. Et si quelqu'un nous l'a dit, pourquoi ? Parce que c'est écrit. Donc finalement, je plais à Dieu avec des choses beaucoup plus élémentaires et simples que je ne pensais. Voilà. Alors, c'est par la foi que Abel. Alors, si vous voulez, vous irez chercher dans les évangiles, hein, ce que Jésus dit de Abel, ici, et puis aussi l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 5. Mais ici, on va rester là, hein, dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Alors ici, la bonne question, c'est qui a dit qu'elle est de plus grande valeur ? Dieu. C'est la bonne... Oui. C'est la bonne question. Eh bien, je vous encourage à lire le début de Genèse 4. Et on lit que Caïn apporta une offrande à l'Éternel. Abel aussi apporta une offrande à l'Éternel. Et on lit, l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Et il ne regarda pas avec faveur Caïn et son offrande. Alors ça veut dire énormément de choses. Cette phrase est à ne surtout pas prendre avec un cœur justement humaniste, revendicatif. Qu'est-ce que c'est ça ? L'Éternel fait des différences. Mais oui, l'Éternel fait des différences. Et pourquoi ? Parce qu'il voit lui dans les cœurs. Et même en amont. Il est écrit quelque part que au sujet de Jacob et Esaü, avant qu'ils aient fait ni bien ni mal, Dieu avait déjà dit quelque chose sur les deux. Donc, voilà. Je m'incline. Alors, de plus grande valeur. C'est-à-dire, c'est et qu'est-ce qui a fait la valeur de l'offrande d'Abel? Alors, non pas premièrement que c'était des animaux, et pour Caïn des végétaux, c'est, l'accent n'est pas mis là-dessus, surtout pas dans Genèse. L'accent, c'est le regard de l'Éternel. Alors, nous sommes en une époque où on encourage les gens à prendre conscience de leur valeur. Et ce n'est pas tout mauvais, hein. Il fut un temps où on faisait tellement l'inverse que... mais pour autant...
C'est pas tout bon non plus.
Non, c'est pas tout bon non plus. Pourquoi ? Parce que, oui, un petit peu, quelques facteurs humains objectifs pour réaliser que j'ai une certaine valeur. OK. Mais prions que ce soit le regard de Dieu qui prime pour nous, même quand nous sommes devant le miroir. Par elle, par la foi, Abel reçut le témoignage qu'il était juste. C'est pas, donc, c'est, littéralement, c'est ça. À vrai dire, je me demande pourquoi ça n'a pas été. Pourquoi ils ont simplement traduit fut déclaré juste. Parce que ça enlève une des mentions du témoignage de Dieu sur. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux pour un racheté de Christ que le témoignage de Dieu sur lui, sur elle ? Sur elle, sur lui, sur elle. Par la foi, Abel reçut le témoignage qu'il était juste, témoignage de Dieu et de Jésus, qui dira Abel le juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Donc là, au point où on en est, ça fait trois fois que nous lisons, et ils ont reçu un bon témoignage. Verset 5. C'est par la foi que Enoch... Alors, vous comprenez que c'est à contre-cœur que j'abandonne Abel. J'aimerais bien rester une heure avec lui. Et puis une heure avec Enoch, et etc. Mais c'est par la foi que Enoch fut enlevé. De sorte qu'il ne vit pas la mort. Alors ça, il faut un tout petit moment quand même bien ouvrir les yeux, là. Ou les fermer, je ne sais pas. Mais c'est dire, attendez, oui, qu'est-ce qu'on vient de lire? Il y en a un qui n'est pas mort. Bon, il y en a deux, en fait. Mais c'est tout, hein. Donc, et ne venez pas me dire que Dieu vous a donné une vision que vous allez ne pas mourir. Hein. Voilà, je ne la recevrai pas. Dieu fait des exceptions. Dieu fait des exceptions. Il est hyper grave de prêcher aux gens que et toutes les exceptions devraient se reproduire dans leur existence. Voilà, parce qu'à la fin, ils vont se prendre pour Jésus, ces gens-là. Donc, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Et là, évidemment, la bonne question, enfin, je pense que c'est une bonne question, pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé? Alors, dans Genèse 5, il n'est pas écrit « parce que », mais il est écrit « il marcha avec Dieu. Il marcha 300 ans avec Dieu. Il marcha avec Dieu. » Et forcément, ça amène aussi des questions. Qu'est-ce que c'est marcher avec Dieu? Tous ceux qui passent du temps dans la Bible, quand même, globalement, ils savent. Et ici, on a carrément la réponse, si vous voulez. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et ensuite, parce que, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Donc, pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé? Parce que, là, je vais parler langage jeune, parce qu'il lui plaisait grave. Moi, j'ai 71 ans. Je réapprends le français. Donc, marcher avec Dieu... Dieu a fait écrire dans Genèse, il marcha avec Dieu, et ici, il fait écrire dans Hébreux, il plaisait à Dieu. Et donc là, Dieu nous éclaire, qu'est-ce que c'est marché avec Dieu. Un moment, nous avons chanté je ne vis que pour toi, ou je ne vis que pour lui. Voilà. Et c'est, il marcha avec Dieu, ça veut dire il vécut pour Dieu. Dans les petites choses, dans les grandes choses, comme ça nous a été dit. Voilà. Trouver un balai. Tout vivre avec lui. Et les grandes douleurs, et il y en a. Il y a des douleurs astronomiques, des fois. Eh bien, les traverser avec lui. Ou plutôt, savoir qu'il les traverse avec nous. Voilà. Il reçut le témoignage qu'il plaisait à Dieu. C'est impressionnant! On verra à la fin de la prédication, en parlant de Jésus, à quel point c'est quand même, en une bonne partie, notre cas aussi, si nous sommes disciples du Seigneur Jésus. C'est-à-dire pas seulement croyant qui fait ce qu'il veut, mais disciple qui écoute et qui est en apprentissage avec le Seigneur. Si nous sommes disciples du Seigneur Jésus, nous plaisons à Dieu. Nous plaisons à Dieu. Verset 6. Un petit mot encore. Pour ces deux-là, Abel, non pour Abel, justement, là, il y a exception, c'est pas... Enfin, non, pardon. Désolé, je commence trois phrases à la fois, ça va pas. Globalement, tous les personnages d'Hébreux 11, dont il est dit « c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi », eh bien, leur foi a été réponse à une parole de Dieu. Voilà. Une des phrases qui le dit le plus de la manière impressionnante, c'est au verset 11, « c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. » Donc Dieu fait une promesse, il a parlé. Et considérer que sa parole est fiable, c'est la foi. Donc la foi répond à la parole de Dieu, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Voilà, nous connaissons cela. Je reviens à verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Là, je m'arrête là un instant. Pourquoi, dans le chapitre 11, c'est le verset commentaire sur la foi des gens, le plus marquant, ce verset 6. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait écrire d'abord en négatif? Il est impossible de lui plaire. Alors, moi, je n'ai pas toutes les réponses à pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Mais quand même, probablement, ou au moins, pour nous alerter. C'est-à-dire, attention, tes pensées, tes bonnes volontés, tes croyances, ça ne suffit pas pour me plaire. Tu peux être extrêmement brillant, tu peux être dévoué, comme on lit dans 1 Corinthiens 13, si je donnais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si même je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, précision. Par ailleurs, la Bible dit, mais en employant le mot agréable ou le verbe plaire en un sens beaucoup plus réduit, la Bible dit quand même que quand, y compris des non-croyants, font le bien plutôt que le mal, que Dieu apprécie. Ouais, c'est très important. Voilà. Mais ce n'est pas sur le même plan. Parce que quand Dieu apprécie la foi en quelqu'un, il apprécie quelque chose qui est saint, sanctifié, parce que ça vient de lui. Alors, il est impossible. Donc, c'est pour nous alerter. Alors, on peut se poser des questions, mais est-ce que c'est possible d'être sans foi? Sans la foi. Je me suis imaginé un élève qui arrivait à l'école, et puis le ou la professeure qui dit voilà, et qui explique quelque chose, ou qui dit pour les divisions, ça marche comme ça, et l'élève, il ne la croit pas. Ou alors des parents qui disent, tu vois, la maison, ben, c'est mon grand-père qui l'avait, et même le père de mon grand-père qui a travaillé, qui a fait ça, et le jardin, il a défriché une partie là du bas de la colline, tout ça, il raconte l'histoire de la famille, tout ça, il raconte tout ça, et le petit, il ne croit pas. C'est possible, ça? Bon, etc., etc. Ben, en gros, non. Dans les sociétés humaines, en gros, les gens y croient ce que les parents, les professeurs, les maîtres d'apprentissage pour apprendre un métier leur disent. En gros, les gens le croient. Mais ils arrivent quand même massivement à ne pas croire Dieu. Très massivement. Alors, particulièrement en France. Mais pas que. Donc, c'est peut-être, voyez, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, attention, comme on est arrivé un peu en avance avec Anne-Marie, on a entendu ce qui a été dit avant, là, et il a été pas mal de fois, enfin, l'humanisme a été mentionné. Attention, en tant que disciple de Jésus, de ne pas prendre l'humanisme pour l'évangile et inversement. Voilà, je peux être aussi humaniste que je veux, c'est pas ça qui va plaire à Dieu. Il est impossible de lui plaire. Alors, cette phrase, sans la foi, il est impossible de lui plaire, elle nous dit en fait encore beaucoup de choses, encore beaucoup plus. Alors, déjà, elle nous dit forcément qu'il faut lui plaire. Mais oui, l'auteur signale comme une anomalie. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, implicitement, il te dit, il faut lui plaire. D'accord ou pas? Ça, c'est une chose. Une autre que j'ai déjà dite, mais il faut le redire quand même. On peut lui plaire. La phrase nous dit aussi qu'on peut lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais la phrase dit aussi, enfin implique, signifie que avec la foi, il est possible de lui plaire. Donc, on peut lui plaire. On va lui plaire, etc. Et puis, elle dit quelque chose quelque chose de plus. Que je dois avouer que je n'avais pas bien pris en compte pendant assez longtemps. Elle nous dit que le but ultime de la foi, c'est de lui plaire. Là, je vais voir vos yeux. Elle nous dit que le but ultime de la foi, c'est de lui plaire. Alors, tout le chapitre nous signale des personnages qui ont obtenu, ou la foi a obtenu, Abel, l'approbation de Dieu, Énoch, il a été enlevé, Noé, il a construit l'arche, il a été sauvé, Abraham, il a trouvé le pays, ils ont obtenu, et Moïse, voilà, ils sont sortis d'Égypte. Donc, la foi, incontestablement, est donnée par Dieu pour qu'on puisse recevoir de lui des choses. Et que des choses changent dans notre vie, dans notre expérience. Qu'on soit délivré de ceci, de cela. Qu'on entre dans telle justice, sainteté, grâce, etc. Donc, la foi pour changer des choses, vivre, expérimenter. D'accord? Cependant, 1 Corinthiens 15, verset 19. Et si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que tous les changements, y compris des miracles, y compris les choses les plus impressionnantes, ne sont pas le but ultime de la foi. Autrement dit, la foi que Dieu nous donne n'est pas ultimement et par-dessus tout utilitaire. Sa raison d'être ultime, c'est de lui plaire. Autrement dit, c'est la communion. C'est la communion. C'est le cœur à cœur. Évidemment que ça rejoint les choses utilitaires. Et donc, je ne sais plus si c'est toi ou quelqu'un qui a dit, quand je traverse la douleur, je sens sa main. Et là, ce n'est pas seulement qu'il me fait traverser la douleur, c'est que ma main dans sa main, c'est le but ultime, parce que c'est pour l'éternité. La douleur, c'est pour un temps. Sortir de la douleur, c'est pour un temps. Ici-bas. Il pourvoit à mes besoins, c'est pour un temps. Il me guérit miraculeusement, c'est pour un temps. Il ne me guérit pas, ce qu'il fait aussi des fois. C'est pour un temps. Mais mon cœur dans sa main, c'est le but ultime. Donc, le but ultime de la foi, c'est de lui plaire. Alors, je conclue. J'ai oublié, mais je n'ai pas le temps de le développer. Le même chapitre 11 nous parle de ce qu'ils n'ont pas obtenu ici-bas. Et c'est ça qui souligne que obtenir pour ici-bas n'est pas le but ultime. Voilà, hein, ils n'ont pas obtenu, mais ils ont reçu un bon témoignage. Et c'est la cinquième fois où le chapitre le dit. Pour conclure, je vais finir par encore une question fondamentale, capitale. Probablement, pour le sujet d'aujourd'hui, plaire à Dieu, oui, c'est pas probablement. C'est la question, sans conteste, la plus importante. Qui plaît absolument, éternellement à Dieu? On le confesse fort? C'est Jésus, le Fils unique, qui lui plaît. Oui, notre Père, c'est ton Fils unique qui te plaît. Et donc, Ésaïe 42, verset 1, l'Éternel dit, « En lui, mon âme se complaît. » C'est un peu comme si Dieu nous faisait comprendre mon Fils éternel, unique, bien en amont de vous. Bien avant que j'aie créé quoi que ce soit, mon Fils unique, il est mon régal total. Et quand Jésus est baptisé, donc là, après le Fils éternel, il est incarné, il se fait comme nous. Et là, quand il est baptisé, le ciel s'ouvre et il y a une voix qui vient et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai, et donc selon les traductions, vous avez tout mon plaisir, ou bien toute mon affection. Et en fait, les deux sens se superposent. En lui, j'ai mis, c'est-à-dire, c'est volontaire de la part du Père, j'ai mis mon plaisir-affection. Plaisir-affection. Voilà. Et je finis avec un verset d'Hébreux 13. Hébreux 13, verset 21, donc tout près de la fin de l'épître. Que le Dieu de paix, donc ça sur verset 21, vous rende, ou nous rende, apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Donc ça, c'est ce que nous faisons, nous, et nous pouvons lui plaire. Mais qu'il fasse en nous, que Dieu fasse en nous ce qui lui est agréable. Ce qui lui plaît, hein, c'est pareil. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Alors, ça veut dire surtout qu'une prédication comme celle d'aujourd'hui ne nous fasse pas nous focaliser bille en tête sur ce que je vais faire pour lui plaire. Pas ça d'abord. Mais me fasse focaliser sur le Fils qui lui plaît et comprendre que ce qui plaît le plus à Dieu en moi, c'est que je crois à son Fils et que je suis attaché à son Fils. Ce qui plaît le plus à Dieu en toi, c'est que tu es joint à son Fils unique. C'est l'essence, c'est le sens de l'adoption. Donc d'abord ça, et après, bien entendu, concrètement, on peut réfléchir à ce qu'on va faire ou ne pas faire pour lui plaire. Autrement dit, c'est d'abord par Jésus-Christ que nous lui plaisons. Alors oui, notre Père, nous bénissons ton nom de ce qu'il soit ainsi possible de te plaire. Et personnellement, je te bénis de ce qu'il soit possible que je te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ. Et nous te remercions pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est éternellement pour nous. Et nous essayons de comprendre aussi ce qu'il est pour toi. Et nous nous inclinons devant la merveille de ce que ton Fils éternel est pour toi, notre Père.